Les chemins de Stéphane Haskell. C'est une collection de podcasts dans laquelle je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont choisi de prendre des chemins parallèles et originaux à l'écoute de l'autre en explorant de nouvelles thérapies. Depuis un accident qui a failli me laisser paralysé, mon chemin a été jalonné de rencontres fortes et déterminantes qui m'ont aiguillé vers eux, leurs forces et leurs envies de transmettre en font des passeurs exceptionnels que je vous invite à découvrir. Bonjour et de nouveau, re-bienvenue sur les chemins de Stéphane Haskell pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me touche énormément, enfin tous, mais celui-ci particulièrement parce que c'est un thème qui a jalonné ma vie depuis presque 12 ans. C'est sur la yoga-thérapie. Et il y a une chose, moi, qui était importante dans mon rétablissement, après que j'ai fait mon film Debout et écrit mon livre Respire, c'est de savoir si le yoga et la yoga-thérapie, surtout, pouvaient être transmises dans des hôpitaux. Et alléluia, aujourd'hui, j'ai, je peux dire, presque une amie, Jocelyne Borel-Cunner, qui est ici, qui est venue avec une autre amie, parce que franchement, ça crée des liens tellement étonnants, je trouve, de se guérir par le yoga et d'avoir ce nouveau moyen de communication physique et verbale, quelque part. Et Jocelyne, je te laisse te présenter un petit peu, me dire un peu quel est ton parcours et comment, parce que nous, on s'est rencontrés en fait en 2016, à un symposium qui était extra, qui était un symposium sur yoga et santé. Et j'étais vraiment content que justement qu'ils introduisent au public ce que le yoga et la yoga thérapie, on va en parler plus en détail, peut amener dans des cas, j'allais dire médicaux, assez graves. Et comment toi, aujourd'hui, par ton métier, parce que tu transmets, tu fais des ordonnances et c'est des postures de yoga. Alors explique-moi un peu le déclic en quelques mots, comment toi tu es venu, parce qu'au départ tu as un passé d'urgentiste, c'est ouais, ça ?
Tout à fait.
Voilà. Et comment tu as eu ce déclic un jour en disant, mais peut-être qu'un jour, déjà tu as une rencontre avec le yoga, et comment ça a fait son chemin pour que tu puisses justement aujourd'hui faire des ordonnances avec des postures de yoga ?
Oui, alors c'est vrai que bonjour et bonjour. Merci de m'inviter déjà.
Non, mais ça fait vraiment plaisir de te revoir parce qu'on se croise depuis pas mal d'années.
Ouais. Et pour moi, le hasard n'existe pas. Ouais. Donc on va dire que ça commence comme ça.
Ouais.
Et ma vocation initiale depuis toute petite, c'est d'être docteur. Donc j'ai toujours rêvé d'être médecin. Mais en même temps que je voulais être médecin, je voulais être trapéziste aussi. Et en fait, quand je regarde un peu maintenant... le déroulé de ma carrière, bah, ça n'en est pas si loin en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivée au yoga. Alors l'histoire commence parce que j'ai toute une carrière d'urgentiste, j'étais même chef de service des urgences et pour moi c'est toute ma carrière. J'ai tout fait à ce niveau-là, la réanimation, les SMUR, le SAMU, les secours en montagne. Ma seconde passion, donc à défaut d'être devenue trapéziste, j'étais beaucoup dans l'escalade et la montagne. Et puis je traitais la douleur, bien évidemment, en tant qu'urgentiste, aux urgences, on est confronté d'abord aux accidents et d'autre part à la douleur des patients. La douleur physique, mais également la douleur morale, donc moi j'appelle plus facilement la souffrance, puisqu'il y a une empreinte psychologique et psychique et sociétale aussi dans ces douleurs. Et donc j'étais très impliquée dans cette prise en charge de la douleur. Et je faisais partie de commissions, de comités, voilà, très investie dans ma fonction. Et on faisait des recherches pour essayer de mieux prendre en charge les patients douloureux. Et ça aboutissait toujours à la même conclusion, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a 70% des patients qui arrivent à peu près dans les services d'urgence pour des problèmes de douleur. Et ils repartent à 60% avec leur douleur. Donc une grosse incompréhension de la douleur. Donc à un moment de ma carrière, je me suis dit, il faut que je raisonne complètement différemment. Il faut que j'arrive à trouver un mode de pensée différent, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en adéquation, nous les soignants, avec les patients. Du coup, je me suis formée en yoga thérapeutique alors que je ne faisais pas de yoga. C'était une formation qui me paraissait être complètement uluberlu. J'ose utiliser le mot, parce que pour moi, le yoga, c'était dans l'imaginaire, comme dans l'imaginaire collectif, en fait, quelque chose d'assez méditatif, posé, on bouge pas, un peu compliqué, alors que j'étais plutôt dans l'action, les urgences, les secours en montagne, l'escalade, l'himalayisme. Donc c'était vraiment aux antipodes.
Mais c'est un peu des a priori qu'on peut avoir. J'avais la même chose hein, que toi sur cette pratique. Et c'est intéressant quand on dépasse justement les a priori et qu'on rentre... dans l'univers du yoga, qui est quand même étonnant.
Complètement étonnant. Ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2012, donc c'est pas si vieux. J'avais donc jamais fait de yoga, je me suis inscrite à cette formation, et qui est, en plus c'était à Paris, donc c'était pas trop compliqué pour moi, quelques week-ends, donc j'y allais. Et dès le premier week-end, j'ai senti dans mon corps, alors que j'avais un corps affûté à l'époque de sportif, plutôt de haut niveau, au niveau de l'escalade, quelque chose, un déclic dans le corps. Et pas un déclic dans ce que l'on m'apprenait sur le plan connaissances et savoir. Vraiment un déclic dans le corps. Et je me suis dit, entre les connaissances et ça, je pense qu'il y a une solution. Et donc j'ai suivi cette formation. Et c'était la formation de Lionel Coudron.
Bien sûr.
Qui est très connu, qui est médecin lui-même. Donc ça me rassurait aussi un petit peu. Et rapidement, j'ai instauré à l'hôpital des consultations. Puisque mes collègues m'ont incité à le faire, en fait. C'est même pas moi qui ai voulu le faire. C'est mes collègues qui ont pensé que pour les patients douloureux, ça pouvait être bien.
Donc il y avait déjà comme une ouverture d'esprit, parce qu'on pense souvent que, j'allais dire, dans le corps médical, les gens sont très 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 fermés à ces nouvelles, entre guillemets, thérapies. Donc il y avait quand même une ouverture.
Alors c'était l'équipe douleur de l'hôpital Simoneuil et en fait et les oncologues et les rhumatologues et qui avaient des difficultés avec leurs patients justement en échec thérapeutique ou pour qui il n'y avait pas suffisamment de solutions pour traiter les douleurs. Alors que j'étais encore urgentiste, ils ont dit bah oui il faut essayer. Eux-mêmes savaient pas ce que c'était que le yoga thérapeutique. Moi non plus à peine puisque j'avais pas fini la formation et je me suis quand même lancée et puis ça a fonctionné tout de suite.
Et très vite, donc tu as eu des patients qui sont venus, dont Céline qui était avec nous. Bonjour Céline.
Eh bien bonjour, voilà. Oui, je suis patiente du docteur Borel depuis 2016. En fait, déjà j'ai eu une errance diagnostique et puis après des traitements médicaux insuffisants. Donc j'ai de moi-même demandé une consultation douleur et là j'ai rencontré... Docteur Borel, et très vite j'ai adhéré, j'ai aimé son écoute, une prise en charge globale et puis une certaine motivation parce que finalement c'est bien une maladie chronique qui engendre des douleurs, prendre des traitements tout le temps sans être vraiment soulagé, et grâce au yoga on se sent plus acteur.
C'est ça, surtout que moi je me suis retrouvé un peu dans votre cas, d'ailleurs dans une espèce, une camisole chimique. J'étais bombardé de médicaments, avec aucune espoir. J'avais fait une rééducation. Vous aviez fait une rééducation un peu
Non.
Moi, j'étais parti à Granville, au centre de rééducation à Granville. Ce qui m'avait aidé, mais à la sortie, j'étais désespéré parce que je ne voyais pas beaucoup de progrès, et surtout de progrès sur la douleur. Mmh. Et comment s'est passée cette première consultation? Parce que vous aviez des a priori un peu sur le yoga
pas du tout.
Vous êtes arrivé en disant...
Moi, j'adore toutes ces médecines qu'on dit un petit peu parallèles. Hein.
Ouais.
Je suis infirmière et très dans la relation de soins. Et j'étais un peu frustrée en étant patient, justement, de recevoir que des médicaments, mais finalement, peu d'écoute dans ma globalité.
Mais c'est l'écoute, c'est surtout ce que vous dites, c'est important. Et Jocelyne, comment ça s'est passé quand tu as ce rendez-vous avec Céline et qu'elle te donne elle dit voilà ce que j'ai.
Je ne me rappelle pas de la première consultation.
Non.
Je ne m'en rappelle pas de la première consultation.
Si. Elle s'en rappelle bien. Moi, c'est pareil, la première fois que je suis allée au yoga médical, je m'en rappellerai toute ma vie. Et vous savez quoi, vous avez dit quelque chose d'étonnant, l'écoute.
Ouais.
Parce que tu le sais, Jocelyne, quand tu as des patients qui arrivent et qui sont désespérés, parce qu'on est arrivé peut-être au bout d'un parcours médicamenteux, on n'a plus d'écoute en fait. On est traité un peu entre guillemets comme du bétail, parce qu'on arrive, on dit tiens, prends ça, et on se revoit dans un mois. Si ça va mieux, on redoublera la dose. C'est un enfer.
Alors donc, Céline, elle avait l'avantage, c'est que, comme elle dit, elle est arrivée en 2016. Moi, j'ai commencé en 2012.
Donc, j'avais un peu d'expérience.
4 ans d'expérience de consultation de yoga-thérapie. Donc, tout de suite, j'étais effectivement au taquet. Ce n'est pas la première pathologie de ce genre que je soignais. Et donc, effectivement, je pense que ça s'est passé comme d'autres consultations. L'écoute est fondamentale, effectivement. Mais c'est une écoute globale. C'est on va chercher toute l'histoire de vie du patient et ça... En yoga thérapeutique,
bien
en
sûr.
Médecine, c'est hyper important. Mais de tout ce que j'ai appris avec toutes mes spécialités médicales, c'était quelque chose que j'avais probablement appris, que je faisais déjà, parce que j'étais plutôt considérée comme un médecin bienveillant et plutôt compétent. Et le yoga, et en yoga thérapeutique, bien évidemment encore plus, m'a permis de comprendre vraiment la différence entre ce qui se passe à un instant donné, qu'on peut traiter dans l'aigu, hein. J'étais urgentiste, et qu'il faut faire, donner les médicaments, etc. Et le chemin de vie d'une personne.
Absolument.
Et une blessure ou une maladie s'incorpore dans le chemin de vie d'une personne, c'est-à-dire, et cette écoute, elle est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement ni d'anticipation à avoir, chose trop souvent que nous faisons les médecins, souvent parce qu'on manque de temps, mais... Depuis le début de la naissance jusqu'à la mort, la maladie ou l'accident s'inscrit dans ce chemin de vie et on ne peut le prendre en compte et le traiter le mieux possible que si l'on utilise ce chemin qui s'appelle d'ailleurs l'allostasie. Et l'allostasie, ce n'est pas l'homéostasie. L'homéostasie, c'est je reviens à l'équilibre, un équilibre scientifique, un équilibre moléculaire, un équilibre chimique. Voilà, genre j'ai trop de glucose. Je reviens à l'homéostasie, j'ai un taux de glucose normal. C'est un instant donné et ça ne prend pas en compte toute ma vie. Alors que l'allostasie, c'est j'ai trop de glucose, je vais peut-être revenir à un taux de glucose comme avant, l'homéostasie, mais peut-être pas. Et ça ne veut pas dire que je ne serai pas bien dans ce que je suis en tant qu'être avec effectivement un traitement. Donc l'allostasie, c'est j'adapte. Instant après instant. Mon corps s'adapte instant après instant et je lutte pas contre, je vais avec. Et c'est absolument. Ça, cette écoute et ce soin. Je ne cherche pas à récupérer une jambe, si de toute manière ma jambe, je la récupérerai pas, mais je vais retrouver un nouvel équilibre avec ce que je suis là maintenant. Et c'est ça, la puissance du yoga et la puissance du
absolument.
Yoga thérapeutique.
Et celui qui avait initié ça au départ en Inde, c'était BKS Iyengar, ouais. qui est le yoga thérapeutique que moi j'ai pratiqué, qui a inspiré bien sûr Lionel Coudron, qui t'a inspiré toi, qui est formidable. Et d'ailleurs, il disait une chose étonnante, il disait que les maladies sont latentes, elles sont toutes là, mais qu'on peut les prévenir, donc en faisant du yoga, avant que ce soit trop tard. Il disait cette phrase incroyable, il disait « Le yoga sert à endurer ce qui ne peut être soigné, à soigner ce qui ne peut être enduré. Mmh. » Je trouve ça très, très puissant.
C'est très beau.
C'est très beau. Mmh. Et quand j'ai entendu cette phrase, quand j'étais moi au centre Iyengar thérapeutique à Avenue Victor Hugo, c'est que ça fait tilt. Parce qu'en fait, il y a une chose que dit très bien Jocelyne aussi, c'est que j'ai l'impression que, en fait, tu adaptes les séquences, enfin les postures, pour que les gens comprennent, à la maladie, selon la maladie.
Exactement.
Parce
exactement.
Que ce n'est pas les mêmes séances, ces mêmes séquences non, pour non. tout le monde. Et non. vous, c'était quoi, Céline, alors?
Bah, moi, c'est déjà... je prenais des médicaments... Le rhumato disait que faut pas trop prendre de médicaments. Hein. Donc finalement, je me disais, mais je vais vivre en mangeant des médicaments, en n'étant pas soulagée. Et très vite, j'ai compris que c'était à moi de me débrouiller. On me donnait des astuces pour justement vivre avec cette colocataire quoi, et mieux l'aborder pour l'accepter parce qu'elle fait partie de moi.
Mais vous avez vu en consultation, hein. Jocelyne, vous êtes reparti avec un tapis de yoga, vous êtes allé faire du yoga chez vous, ça s'est passé comment?
Parce non, j'ai eu quelques petits exercices de bascule du bassin, simplement.
Ouais.
Et tout de suite, ça m'a fait du bien. En plus, quand je le faisais, j'étais concentrée.
Le corps est
plus intelligent
que nous.
J'étais déconnectée. Et ça faisait du bien dans le boulot, dans la vie.
Dans le quotidien, perso, finalement.
Juste une bascule de bassin avec la respiration.
Parce que vous m'avez dit une chose, quand vous avez commencé à pratiquer, vous avez pris le yoga dans votre quotidien à l'hôpital. C'est-à-dire que vous, autant de pauses, vous alliez faire des postures de yoga.
Petites choses. Respiration, une petite bascule de bassin quand je suis debout et tout ça. Mais dans mon vestiaire, c'est clair. Je me fais une petite posture ou des fois une ou deux salutations au soleil qui est quand même. Ouais. Ça me prépare, ça me mentalise un petit peu.
Et quelle est l'évolution, Jocelyne, dont, par exemple de Céline, que tu reçois? Parce que les progrès, vous les avez vus sur quoi? Sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an? Parce qu'il ne faut pas oublier de dire aux gens, ce qui est important, c'est que nous, en tant que patients, élèves, on s'investisse. Voilà. Ce n'est pas miraculeux.
Ouais. En fait, ce n'est pas miraculeux, mais c'est miraculeux quand même. C'est-à-dire que c'est tellement simple, et c'est là où ça devient déroutant. C'est qu'au fur et à mesure de ma pratique de médecin, de thérapeute, donc ce n'est pas une médecine alternative, c'est une médecine complémentaire, le yoga thérapeutique, je me rends compte que ce sont toujours des choses très simples qui passent par la compréhension dans le corps du patient, Donc, c'est à moi de faire comprendre dans le corps du patient quelque chose de particulier, c'est-à-dire ce que j'appelle la brèche d'une sensation agréable, pour qu'ils aient envie de le refaire chez eux. Parce que le but, il est de le refaire chez soi, une ou deux fois par jour, comme on prendrait un comprimé de paracétamol trois fois par jour. Eh ben, là, on fait 5 minutes de yoga thérapeutique trois fois par jour. Et au fur et à mesure des séances, donc au début, on se voit un peu régulièrement en consultation médicale, donc je réadapte, on voit avec les traitements, etc. Au fur et à mesure des séances, donc j'augmente un petit peu les mouvements. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a maximum pour un quart d'heure et c'est adapté à ce que peut faire la personne. Donc je m'adapte à ce qu'elle peut faire, elle, dans son corps, mais aussi à ce qu'elle peut faire chez elle, avec ses contraintes ou avec son travail. Ça, c'est hyper important. Par exemple, je ne vais pas dire je vais faire absolument ça si la personne, elle ne peut même pas s'allonger par terre parce qu'elle n'a pas de place ou qu'elle n'a pas de temps avec ses enfants. Donc dans ce cas-là, je trouverai une autre solution. Et justement, l'outil yoga est fabuleux parce qu'il y a plein de solutions qui vont aboutir à, dans le corps, toujours la même chose. C'est-à-dire le but, il est dans le corps toujours sécréter ces fameux neuromédiateurs qui vont induire déjà un état de confiance, mais aussi qui vont aussi diminuer la douleur parce qu'on va augmenter les endorphines, qui vont aussi diminuer les process inflammatoires. Donc on sait comment ça agit. C'est pas de la magie. C'est pas forcément un mouvement. C'est souvent le mouvement. C'est très bien quand on peut faire certains mouvements. Plus certaines respirations, ça va être trois fois plus efficace. Mais si on peut faire que des respirations, ça sera quand même efficace. Si on peut faire que des méditations, ça peut aussi être efficace. Plus complexe à ressentir, mais ça peut être efficace. Mais ce n'est efficace que si c'est fait par le patient.
Et Céline, donc c'est ce que vous avez fait, ouais. C'est-à-dire que vous êtes repartie donc avec une ordonnance, c'était des postures de yoga, c'est ça?
Ouais, c'était des
postures. Et vous avez dit tout de suite, vous avez plongé.
Mais c'était pas des exercices ultra faciles, hein, comme elle dit.
C'est pas facile au départ parce que le corps n'est pas habitué.
Hein.
Ouais, non, mais moi aussi, quand on m'a fait certains, on dit tu vas faire telle posture, j'ai dit jamais de la vie. Ouais. Mais finalement, ce qui est fou, c'est que dans la posture, au millimètre près, presque, je veux dire au centimètre, mais presque au millimètre près, le mental il bloque. Et plus vous avancez dans la posture avec l'intelligence du corps, l'intelligence de la respiration, on arrive un jour à faire une posture qui nous semblait totalement irréalisable.
Oui.
Moi, je fais une posture sur la tête aujourd'hui, à l'époque, après un syndrome de la queue de cheval, je me dis jamais. Mais j'ai appris à avoir confiance en mon corps. Je m'étais dissocié de mon corps dans la maladie. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez vécu ça.
Cette dissociation, oui. Si, j'avais une tête et des pieds.
C'est fou, hein. On est ailleurs, on n'est plus là. On est dissocié.
Ce corps-là, je ne l'aimais pas du tout.
Voilà.
Hein. Et puis là, des fois, il m'impressionne. Hein. Mais par exemple, elle m'a fait faire la chandelle.
Ouais.
Et la chandelle, maintenant.
Et maintenant, j'y arrive.
Vous y arrivez? C'est fou, hein, parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais.
Elle est très bien. Dans le cours de yoga, parce que maintenant, elle vient à mes cours de yoga, qui sont des cours de yoga classiques.
Ouais.
Hein, dans une association en ville où il y a des patients qui n'ont aucune pathologie. Et puis, il y a certains de mes ex-patients qui viennent aussi aux cours de yoga s'ils en ont envie. Et donc Céline fait partie de ces cours de yoga où elle vient. Elle fait toutes les postures, il n'y a plus
c'est
aucun
génial.
Souci.
Et comment ça se passe autour de vous, au sein de votre famille? Parce que moi, je vous donne juste l'exemple. Quand j'ai commencé à faire ce yoga, dans ma famille, on me regardait en me disant « Lui, on l'a perdu, on va le récupérer avec des dreadlocks dans une grotte à Bali. » Parce qu'ils avaient un peu cette image. Et en fait, il y a cette phrase très belle où on dit « Nous, on change et les autres vont changer autour de nous. » Et donc moi, j'ai commencé à pratiquer. Et aujourd'hui, même ma mère, qui a presque 80 ans, s'est mise au yoga, parce qu'elle a des problèmes de dos, etc. Comment ça s'est passé, vous, dans votre entourage?
Moi, dans mon entourage très très proche, ma mère, ma sœur, elles ont très vite repéré les changements.
Ouais, voilà.
Et l'amélioration. Mon mari, c'est un peu rigolo, parce que le yoga, ça peut être un sport de vieux. Hein. Voilà.
C'est fou, encore.
Complètement. Ouais. Hein. Et pourtant, moi, je vois que ça lui ferait tellement de bien, que ça ferait du bien à tout le monde, quoi.
Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir dans nos résistances et nos peurs, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'on a un peu... Moi, j'ai une éducation classique en France, etc. Donc pour moi, le yoga, ça restait quelque chose d'un peu... Voilà, pour une certaine caste d'Indiens en Inde, de fakirs, etc. Alors que c'est un yoga qui a été totalement démocratisé depuis les années 50, en fait, en Occident, par justement Bekkes Iyengar, qui était d'ailleurs le professeur de yoga du grand violoncelliste Yehudi Menuhin, et qui ne pouvait plus jouer du violon, il avait de la polyarthrite. Et Menuhin a dit « le yoga, c'est mon deuxième violon ». Je trouve ça magnifique. Il y avait d'autres cas, un peu de... J'allais dire pas de miracle, mais de gens avec qui tu as vu vraiment une grosse évolution.
Quasiment tous
comme
les patients.
Tous les patients. Et
80% de mes patients qui
c'est
pratiquent.
Ben voilà.
En fait, voilà, si les patients pratiquent, il y a une évolution positive. Pas forcément l'évolution positive que l'on voulait... initialement, mais une évolution positive. S'ils ne pratiquent pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle. Si on ne fait pas, il n'y a pas. Et c'est là où il n'y a pas de miracle. Ouais. Si on fait, il y a. Bien évidemment, ils peuvent pratiquer une journée, ça va leur faire du bien. Quand ils sortent de la consulte, ils sont mieux. Ils ont déjà ce sentiment, même pour des gens qui sont contre, a priori, ou en tout cas pas pour, qui n'y croient pas. J'adore les patients qui n'y croient pas, parce que c'est souvent sur ceux-là qu'on a les plus beaux résultats.
Exact. Voilà. Exact.
Et du coup, après, ils le refont chez eux de manière militaire, même s'ils n'y croient pas. Et puis, voilà, moi, j'ai eu des cas comme toi, des queues de cheval, des sciatiques hyperalgiques, avec des déficits neurologiques inopérables, qui ont tout récupéré.
Qui ont tout récupéré.
Tout ce qui est ostéo-articulaire, a priori, c'est beaucoup plus en rapport avec une prise en charge yoga-thérapeutique. Donc, en tout cas, c'est moi sur ça que je me suis plus axée. Ensuite... les douleurs pelvi-périnéales, les problèmes de désordre immunitaire, donc toutes les pathologies avec les spondyarthrites ankylosantes, les polyarthrites rhumatoïdes, les maladies de Crohn, toutes les pathologies en fait auto-immunes sont très accessibles au yoga,
d'une
manière générale, et au yoga thérapeutique. Ouais. Bien évidemment, souvent, les personnes qui viennent au yoga, c'est pour mieux dormir, pour diminuer l'anxiété. Moi, j'ai initialement enlevé cette spécialité, on ne peut pas tout faire. Donc je me suis spécialisée sur la douleur, plus sur la douleur des maladies chroniques et plus sur les douleurs ostéo-articulaires et immunitaires.
Mais la douleur, elle est créée par quoi, la douleur, au départ? C'est les terminaisons nerveuses. Quand vous aviez mal, Céline, et que c'était des douleurs à vous taper la tête contre les murs, j'imagine, c'était une douleur, non? C'était comment était la douleur? Comment vous pouvez gérer la douleur et comment vous la gérez aujourd'hui? Quelle est la différence
c'était
entre...
C'était une douleur permanente.
C'est ça, ouais. C'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques.
Je vais dire, non, aujourd'hui j'ai pas mal, puis finalement, en réfléchissant, j'ai mal là. J'avais déjà un dérouillage matinal qui était très long. Hein. Quand je me levais, je me cognais parfois contre un mur. C'était trois quarts d'heure, une heure.
C'est ça, ouais.
Maintenant, je me lève quasiment normalement.
Et vous avez un rituel matinal ou un rituel dans la journée, c'est
ça? Oui, notamment des petits exercices qu'elle me faisait faire pendant que je faisais couler le café et que je faisais oh là là. Et maintenant, je le fais normal, quoi.
Et vous allez voir Jocelyne, c'est quoi maintenant?
Maintenant, je la vois tous les ans.
Seulement une fois ou...
Bah oui.
Ah oui, donc après, tu libères tes patients, ils reviennent. Le temps qu'il faut, ils viennent te voir régulièrement, tu redonnes les outils qu'il faut, tu suis.
Ça va tout doucement, c'est-à-dire que le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Quand il commence à y avoir une amélioration, une compréhension de ce qui est demandé, avec une amélioration physique, douloureuse, ou dans la vie quotidienne, et ou tout ça en même temps, eh bien, on espace. Donc, on va tous les 3 mois, puis après tous les 4 mois, puis après tous les 6 mois, et puis après une fois par an, puisque, et si besoin, on reprend. Mais voilà, comme un suivi médical d'une maladie chronique, juste histoire de parler, prendre contact, ne pas perdre contact.
Mais sous le fait qu'eux-mêmes soient, j'allais dire, patients actifs, c'est-à-dire que même soient actifs.
S'ils sont pas actifs,
il n'y
a pas de résultat. Ouais. Et de toute manière, s'il y a un contrat thérapeutique dès le début, je suis quand même patiente, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de se mettre au yoga thérapeutique.
Ah non.
Il faut installer son tapis, il faut le faire tous les jours, il faut se contraindre. Donc bon, ok, la première fois, ils ne le font pas, ils reviennent à la deuxième consultation. Ils sont en général assez francs, les patients. Non, je n'ai pas réussi, je ne fais pas. Donc, ou je n'ai pas pu m'adapter à leurs contraintes. Et donc, c'est moi qui me remets en question, ou je les incite un peu plus. Troisième fois, pareil. Si au bout de la quatrième, cinquième fois qu'on se voit, il n'y a eu rien, aucune prise en charge de leur part.
Bien sûr.
Je dis, non, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. Vous savez très bien que ça ne peut être efficace que si. Voilà. Et donc, on arrête et ils reviennent quand ils sont prêts. Mais souvent, à ce moment-là, moi, j'ai mis en place des groupes collectifs parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à le faire seules.
C'est ce que j'allais dire, parce que moi, j'étais un seul élève.
Les groupes collectifs sont intéressants.
Voilà.
Donc, du coup, je les adresse vers des petits ateliers collectifs. Et vous aviez participé
à
ces ateliers. Le temps qu'ils aient l'envie, le temps qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des personnes qui vont comprendre vite et des personnes qui vont comprendre un peu moins vite.
Moi, j'ai compris très lentement, je peux te dire, parce que j'ai dû y aller tous les mardis à la même heure pendant 5 ans. Sinon, je lâchais. Puis j'avais
coach,
des pâteux.
Comme du coach, en fait.
Voilà, exactement. Et puis, c'était comme mon mantra, c'est-à-dire tous les mardis, à 5h30, j'étais dans le 16e arrondissement, je faisais mon cours médical pendant 2 heures, et ça me redonnait cette petite flamme, parce que moi, à un moment, sur la longueur, les douleurs chroniques ont quand même duré 5 ans. Je ne sais pas combien de temps ça a duré pour vous, Céline. 8 ans, vous m'avez dit, à un moment.
J'ai 8 ans d'errance de diagnostic. Je suis traitée par anti-TNF depuis 2014, et suivie en yoga-thérapie depuis 2016.
Voilà.
Donc c'est quand même un peu longuet.
C'est long, ouais.
Mais moi, ce...
Vous n'avez pas eu envie d'arrêter un moment en disant
Le yoga.
J'ai toujours aussi mal. Pourquoi est-ce que moi j'ai eu ça.
C'était les médicaments. Les médicaments.
Oui, non, mais arrêtez la yoga thérapie. Ça a toujours été, histoire d'amour dès le départ, en fait. J'allais faire un cours de yoga.
C'est pas le même yoga. Alors je nuance.
Ah oui. Nuance. Ah, c'est intéressant parce que bon,
alors,
c'est.
Moi, Iyengar, j'adore. Parce que Iyengar, effectivement, c'est le maître à tous en yoga thérapeutique.
Bien sûr.
Et c'est celui qui l'a amené en Europe. Donc ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais c'est un yoga adapté à l'Indien, même s'il a évolué beaucoup en France. Moi, j'utilise certaines méthodes d'Iyengar, mais pas tout de suite.
Oui, donc tu fais plutôt du restauratif, on va dire.
Alors, c'est pas vraiment du restauratif, mais...
C'est compliqué, ça, c'est des langages qu'on a nous.
Parce que le restauratif, c'est un peu extrême aussi. C'est une méthode que j'ai adaptée, qui n'est ni du coudron non plus, d'ailleurs.
D'accord.
Qui est issue de l'école de coudron, qui est un petit coudron. Il est un peu hatha yoga traditionnel avec la respiration. Il n'utilise pas du tout Iyengar. Il ne veut pas de support, il ne veut pas... C'est que le corps. Mais pas de restauratif non plus. Donc, et moi, j'ai tout de suite compris que le support pouvait être important.
Donc, le restauratif, ce serait quoi? Comment on pourrait le définir,
Pour moi, en tout cas, le restauratif, c'est d'aller chercher quelque chose uniquement d'agréable. On met plein de coussins, on met plein de supports, on va chercher des trucs pour être dans une sensation très agréable.
Donc, presque du yoga de relaxation, presque...
Oui, et en essayant de faire un étirement, de faire, quand même avec une physiologie...
Étirer les muscles, étirer le bassin, ouvrir des ouvertures...
Que j'utilise, moi, c'est pas un yoga. D'ailleurs, je le dis souvent, le but, il n'est pas le mouvement, c'est qu'un prétexte. C'est vraiment aller chercher directement, tout de suite et le plus rapidement possible, la sécrétion de ces fameux neuromédiateurs. D'accord. En fait, c'est ça. Mmh. Et ça, c'est ce qui donne cette sensation agréable, rapide, et qui fait qu'après, le patient va avoir envie de le reproduire chez lui.
Chez lui, retrouver là cette sensation.
Voilà. Et à partir du moment où tu as cette sensation, tu le fais.
Ouais,
je ne sais pas si ça s'est passé comme ça.
C'est un peu comme ça pour ça, pour vous, Céline,
Dès la première séance, juste la bascule du bassin, puis cette concentration, cette respiration.
Ça, c'est une autre chose. Je vous ai dit un mot très juste. On n'apprend pas aux enfants, on nous apprend pas à respirer. On est bloqué dans notre respiration. Enfin, toi, tu sais bien parce que tu leur apprends à ouvrir justement cette. Qu'on respire dans tout le corps et qu'on fasse naviguer, j'allais dire, l'air dans toutes les parties de notre corps. Moi, quand ma première prof de yoga m'a dit « tu vas respirer, tu vas envoyer l'air », tu sais, c'est la respiration Ujjayi qui passe par la gorge. Tu vas la faire descendre dans tes poumons, dans tes jambes. Je dis « mais je ne sens pas mes jambes, qu'est-ce que tu me racontes ?» Elle me dit « si, fais-le ». Et puis au bout d'un moment, je l'ai fait et j'ai senti des fourmillements dans ma jambe droite que je ne sentais plus. Et là, je me suis dit « c'est dingue !» La conscience qu'on peut amener dans des parties immobiles de notre corps qui sont immobilisés par l'air. Et c'est ce que fait le yoga, il fait circuler le sang et l'air, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez senti, Céline, ça, quand vous avez commencé la respiration? Enfin, les techniques de respiration.
Surtout une relaxation globale. Et très vite, je me suis aperçue que certains problèmes de la vie quotidienne qui étaient très embarrassants, je les abordais différemment, comme si j'avais une petite bulle en permanence.
C'est exactement ça.
Et ça, je trouvais ça super agréable. Et dans ma profession d'infirmière en psychiatrie, je m'en sers pas mal pour les gens qui sont angoissés, déprimés, la respiration, les choses, et c'est pas mal.
Et depuis que tu l'as introduit, tu as combien de patients à peu près maintenant?
Tu
en as près de plus de 800, je crois, un truc comme ça.
Oui, ça a même dépassé maintenant, on est à 1500 par an.
C'est génial. Et donc il y a vraiment un bouche à oreille qui fonctionne. Est-ce que tu sens que dans le corps médical, celui que tu connais, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres CHU, ça germe, ça y est, ça vient.
Ça germe, il y a un intérêt, en tout cas pour la prise en charge de la douleur. Je pense que ça, j'ai bien transmis ça.
Ah, génial.
J'ai fait pas mal de conférences dans nos sociétés savantes. On a présenté ce qu'on faisait à l'hôpital à un congrès national en yoga-thérapie. Et maintenant, donc, il y a des médecins qui ont fait une formation de yoga-thérapie ou qui vont la faire et qui viennent en stage chez moi à l'hôpital. Parmi ces médecins, donc, il y en a deux qui ont réussi à ouvrir aussi en douleur, une consultation de yoga-thérapie, parce que les équipes douleurs ont demandé. Parce que du coup, par ce biais de la douleur, les centres de la douleur commencent à essayer d'avoir une autre médecine complémentaire.
Exactement.
Pour aider les patients douloureux chroniques. Donc c'est vraiment la brèche.
La brèche à y aller.
Elle s'est ouverte, c'était la bonne porte d'entrée en tout cas. Nous, on essaie de finaliser des études de recherche clinique. Donc c'est très long, on a changé d'hôpital pour ça. On est parti à Pontoise exprès, parce qu'à Pontoise, il y a un centre de recherche clinique. Et du coup, on a fini une étude rétrospective, justement, sur des patients qui ont été pris en charge en yoga-thérapie. On devrait publier là, bientôt, cette année, enfin sortir. Mais là, l'étude, elle est finie. On monte une étude multicentrique. Enfin voilà, on essaye de démontrer scientifiquement, parce qu'on est dans un pays où c'est hyper important.
Ouais.
Et je le conçois que ce soit hyper important. Et en plus, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est vraiment simple.
Moi, j'ai des études là sous les yeux de 2005, de la Harvard Medical School. C'est une évidence. Donc, on est un peu en retard, nous, toujours en France, même par rapport à l'hôpital de Berlin où j'ai été passé, où ils l'ont introduit au service de cancérologie chez les hommes. Le yoga va pas guérir du cancer.
Non, c'est complémentaire. C'est une médecine complémentaire.
Voilà, exactement.
Mode médecine complémentaire,
mais la manière d'appréhender la maladie, la manière de la vivre, enfin, j'imagine que c'est ce que tu vis, Céline. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est une ouverture sur un autre monde pour des gens qui étaient vraiment enfermés dans une maladie extrêmement douloureuse, surtout les douleurs chroniques.
C'est vraiment un moyen supplémentaire.
Ouais.
Maintenant, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment.
Bien sûr. Et c'est toujours le même problème.
Donc, il faut que ce soit cadré.
On a vu, on en a souvent parlé, les dérives qu'il peut y avoir, etc. Ouais. Donc, si c'est toujours très cadré, que la transmission se fait d'une manière juste et avec des gens compétents. Et j'espère qu'en France, on va continuer à ouvrir ses portes. En tout cas, merci. Merci de brandir le petit drapeau yoga, thérapie, de l'amener dans les hôpitaux. Moi, j'espère que ça va continuer. Céline, vous aviez une petite chose à rajouter pour que des gens qui sont, j'allais dire, dans votre situation et qui n'osent pas ouvrir la porte encore, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui hésitent encore un petit peu
déjà,
à aller voir Jocelyne parce
par rapport aux antalgiques, j'ai baissé de 3/4.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Et puis ça apporte un bien-être psychologique aussi, ça fait du bien. Le corps est debout, au sens propre, figuré.
Et toi, Jocelyne, un petit mot ?
J'ai ouvert cette année une école de yoga en santé, justement pour essayer de transmettre encore plus au plus grand nombre. Et on utilise bien sûr les outils du yoga thérapeutique, et dans le yoga thérapeutique, il y a le mouvement, il y a la respiration, il y a la relaxation, il y a la méditation, mais il y a également la nutrition, l'alimentation qui est hyper importante. On est en Europe, on ne va pas parler d'Ayurveda et on va utiliser les aliments déjà qu'on a sur notre territoire. Et dès le début aussi, dans mes consultations, j'utilise la nutrition, c'est très important. Donc, on travaille en collaboration dans notre équipe à l'hôpital avec un médecin qui s'est spécialisé en plus de la douleur dans la micronutrition, ce qui fait qu'on augmente l'efficacité de ce que l'on fait. Donc ça, oui, c'est en plein essor. On adore ce qu'on fait, on est passionné.
Et dans les jeunes médecins, on va dire, qu'est-ce que tu vois ? On va terminer là-dessus, mais est-ce que tu vois cet intérêt ? Est-ce qu'ils ont envie d'y aller ? Ils s'intéressent ? Ou tu sens que c'est encore un peu hésitant ?
Là, dans notre équipe, je suis la plus âgée. Et donc, le médecin qui est un jeune médecin qui s'occupe de la micronutrition et qui est passionné aussi de ce que je faisais en yoga-thérapie, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et après, on a un autre médecin qui est intermédiaire, on va dire, entre vieux et jeunes, et qui fait de la musicothérapie aussi. Donc, on utilise aussi le son. Donc, on a mis ça dans notre équipe.
Ouais, bravo.
Et dans l'école qu'on a ouverte, il y a effectivement, ce sont des jeunes médecins qui sont inscrits.
Ils sont ouverts à ça.
Ce sont des jeunes médecins, tout jeunes médecins, tout jeunes, donc des universitaires en plus, des anesthésistes réanimateurs. Donc, ça fait très plaisir. On ne renie pas toutes les avancées
qui sont merveilleuses, c'est les deux médecines, c'est la rencontre des deux médecines.
Et c'est indispensable.
Bien sûr.
Mais la tête et le corps, c'est la même chose, on ne doit pas dissocier les deux. Une émotion, c'est toujours dans le corps.
Toujours.
C'est l'impression que l'on a de maîtriser son émotion par le mental. Mais donc, le corps et l'esprit, c'est la même chose. On n'a pas à les dissocier. Donc ça s'apprend aussi.
Voilà. On est trois passeurs. On continue chacun avec nos petites armes. On montre nous-mêmes qu'on change. Les autres ont envie d'aller vers nous et de faire la même chose, et en tout cas de voir qu'il y a des solutions.
Oui, c'est spectaculaire.
Et puis c'est spectaculaire.
C'est spectaculaire.
Merci beaucoup, Céline. Merci, Jocelyne.
Merci à toi.
Merci
beaucoup. Merci.